Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de L'Accroche-Oreille. C'est Jean-Pierre Gay, Gaëtan Gosselin avec vous ce soir. Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Galerie Stratique, un curieux, un personnage de Québec qui fait de l'art sonore ou enfin de l'art audio, qui joue avec le son, en fait. De son nom, Charles-Émile Beulac. C'est avec un grand plaisir qu'on reçoit Charles-Émile ce soir.
Merci.
Il expérimente depuis l'âge de 14 ans le son. Son premier album date de 2001 qui s'appelait Nothing Down to Earth. Et j'ai eu l'occasion d'entendre de son travail dans un projet qui s'appelait L'Oreille dans l'œil, où des artistes sonores intervenaient sur des œuvres visuelles. Et donc, il intervenait à l'époque sur une œuvre d'Alonzo Arzapalo. Et à la fin 2015, son dernier album est arrivé, qui s'appelle Rêve de béton. Et on entend actuellement un extrait. Alors, Charles-Émile Beulac, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de m'inviter. Je suis content d'être ici.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Depuis le temps qu'on s'envoie des courriels, on s'était dit à un moment donné, faudrait bien se rencontrer. Donc, c'est fait ce soir, vers la fin de notre saison. Il nous reste encore deux émissions après celle-ci. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Sur les galets, c'est la pièce initiale de mon album Rêve de béton. D'inspiration un peu naturaliste, là, avec des évocations d'eau, de plage, de galets. Puis bon, c'est un sujet d'inspiration qui revient souvent, là, les éléments de la nature.
Ouais. Là, c'était l'eau. Il y a le vent aussi. Il y a plusieurs éléments qui sont présents. Ouais. C'est pas une question environnementale. C'est pas une question d'être sensible à ces questions. D'avoir un propos, je dirais, engagé, mais c'est plus une sensibilité à la nature et aux environnements naturels.
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un intérêt fort pour cette question-là. Mais la nature, ça nous amène à un terrain neutre aussi, qui est plus propice à être perçu d'une personne à l'autre différemment. Donc, je laisse libre. La liberté à l'auditeur d'interpréter ou d'y voir ce qu'il veut. C'est sûr qu'il y a d'autres influences aussi, peut-être même un peu japonaise avec des gongs et tout ça. J'aime que les choses se mélangent.
Je pense qu'il y en avait un dans celle-ci aussi. Il n'y avait pas un gong à un moment donné, non?
Oui.
C'est moi qui crois.
J'avais emprunté un gong à une boutique en centre-ville et puis j'ai passé des semaines à jouer avec, à gratter ça. Puis j'ai utilisé un petit peu pour cet album-là, mais pour d'autres pièces également à venir.
Ben, c'est intéressant parce qu'on parle d'un gong, parce qu'on est dans un studio qui s'appelle depuis quelques semaines le studio Denis Barry. Et Denis avait un gong chez lui. Et,
un gros?
Non, c'était pas un gros, un bon, un gong. C'est, il avait quelques instruments comme ça dans et qu'il aimait bien faire résonner de temps à autre. Donc, c'était un petit clin d'œil à Denis. En tout cas, quand j'ai entendu ce que tu parlais à l'égard du gong, ça oui. m'a rappelé mon ami Denis. Ça s'appelle Galerie Stratique. Pourquoi Galerie Stratique?
Bon, en réalité, j'avais peut-être une petite timidité de sortir de la musique sous mon propre nom. Et puis, il y a quelques années, j'avais envoyé un démo à une compagnie britannique qui s'appelle Worm Interface. Ils faisaient de la musique IDM un peu là, à l'époque. Mm-hmm. Et puis, j'avais mis Galerie Stratique, c'était le nom du démo. C'est un vieux souvenir d'enfance là. Ce serait trop long à expliquer. Puis c'est pas vraiment.
Mais ça commence jeune la musique. On en reparlera. Oui, là, mais ça commence.
Mais ça avait aucun lien avec la musique. Mm-hmm. Et puis ils m'ont demandé, on sort telle pièce. On aimerait sortir telle pièce dans une compilation. Vous, votre nom de projet, c'est bien Galerie Stratique. Puis j'ai été comme pris de court. Je savais pas quoi d'autre fournir comme nom. J'ai dit OK. Puis je suis resté collé avec ça.
Donc c'est resté.
Mais on peut avoir un lien. Galerie, ça évoque l'art. Stratique, oui. Ça évoque le sol, les couches de.
Les strates. Oui, parce que dans ton travail, il y a parfois plusieurs
oui,
strates.
Tout à fait.
Dans l'art électronique, il y a plusieurs couches souvent dans le travail qui est fait. Plusieurs pistes.
Je vois de la misère à m'arrêter de rajouter des couches. Des fois, la simplicité, c'est bien aussi. Mais oui, c'est je sais pas pour quelle raison, par un heureux hasard, ça donne un certain sens, mais
oui. c'est un donc c'est comme parcours. C'est comme une galerie, au lieu d'être une galerie artistique, une galerie d'art visuel, c'est une galerie de son.
Oui, exact.
Ah ben c'est bien, j'avais pas vu comme ça.
Mais c'est rétro-analytique, hein, c'est intuitif tout ce qu'on fait.
Alors Gaétan, est-ce qu'on pourrait enchaîner avec une autre pièce?
Oui, Jean-Pierre, attends un peu, je vais sortir ma liste parce qu'il y a tout de même sur l'album sur l'album Rêve de béton, il y a tout de même un travail assez substantiel de plusieurs pièces. J'avais fait une sélection et comme le dit Charles-Émile, il y a tout un volet maritime, je vais dire ça comme ça. On a écouté sur les galets et puis on va entendre maintenant Marée montante. Mm-hmm. Et puis Charles pourra nous parler un peu de ce qu'en retourne de cet univers, okay. Univers maritime. Thank you.
c'est évocateur. On entend toutes sortes de... c'est une musique qui transporte, qui nous amène dans toutes sortes d'univers, des univers qui sont très précis, mm-hmm. d'autres plus éthérés. Qu'est-ce qu'on entendait comme instrument là-dessus?
C'est ça, c'est comme je mentionnais pendant que ça jouait, c'est la première des pièces que j'ai mm-hmm. incorporé pour la première fois du vibraphone, mm-hmm. un instrument que je m'efforce d'apprendre, mais que parfois par la force des choses, je pratique pas assez. Mais je l'ai comme assemblé en petites pièces détachées parce que au début, j'étais pas satisfait de mon jeu, mais ça s'est amélioré avec le temps. Il y a des clochettes de poterie, du synthétiseur modulaire. Il y a une sorte de petit saxophone marocain que j'ai acheté dans un souk au Maroc. Ce que j'ai essayé de chercher, c'est peut-être le titre « Marée montante ». J'aime bien quand ça respire, c'est-à-dire la musique, le rythme, c'est souvent constitué d'éléments en deux ou en trois temps. Puis là, c'est quelque chose qui monte, qui descend, ça
arrive. Il y a comme un aller-retour, comme la marée, tu sais, qui monte, qui redescend. On sentait cette espèce de vague, là, dans le sens vraiment littéral du mot. Là. Ça montait, ça revenait.
C'est ça. On peut aller en élément continu, un drone, quelque chose qui continue toujours, un madrier dans le temps. Mais moi, j'aime bien ce qui respire. Physiologiquement, on peut comme se connecter avec la musique plus facilement quand ça va avec les rythmes de les rythmes corporels, mm-hmm. le souffle, le cœur. Ça se ressent de façon plus naturelle, j'ai l'impression.
Ouais, Charles-Émile, je lisais dans une note, c'est une note de presse là où tu fais une sorte de distinction entre la musique ou les sonorités qui sont créées, puis les musiques ou les sonorités qui sont récupérées. Parce qu'il y a des sons qui sont, les sons sont fixés sur des supports. Tu privilégies, je crois, la matière spontanée là.
La matière brute.
La matière brute.
Oui, je me suis jamais vraiment permis de faire des samplings, d'aller chercher par exemple un échantillonnage d'une pièce que j'aime, d'un rythme que j'aime. Je me suis comme donné cette contrainte-là de toujours créer moi-même les sons. Si je prends les sons d'une quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui me dit « Mais tiens, j'aimerais ça que tu travailles ceci. Mm-hmm. » Là, je le sens comme un défi, quelque chose qui m'est imposé. Mais j'essaie de recréer moi-même les sons qui me plaisent. Ça peut être intéressant des fois d'aller chercher. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher un son des années 60, des années 70, des années 50. Mais je trouve plus intéressant d'essayer de le recréer. Puis ce processus-là qui nous amène à cette recréation fait quelque chose qui est différent, mais plus personnel. Puis plus satisfaisante aussi. C'est une petite contrainte
que
je me donne.
Ouais, est-ce qu'on peut dire que tu as tout de même une réserve à l'égard des technologies ou de la matière synthétique?
Oui, en fait, mais j'embarque à fond dans rien, puis je ne dis non à rien non plus. J'aime me garder plusieurs possibilités, mais sans entrer trop à fond dans une école de pensée. Mm-hmm. Je trouve que c'est l'informatique est un médium intéressant. Ça travaille bien pour certaines choses, entre autres la post-production. Mais pour la création de sons, je préfère aller avec des sources analogiques, des mm-hmm. instruments mm-hmm. acoustiques, des enregistrements, des field recording. Puis une fois qu'on a tout capté ça, on met ça dans la boîte. Puis là, on séquence, on retravaille, on corrige. Mais j'aime pas ça générer le son à partir de l'ordinateur. Mm-hmm. J'aime que ça se croise.
Donc ça va, c'est comme à la source de l'art sonore, hein, d'aller chercher soi-même ses propres banques de son.
Oui.
Alors, c'était donc Ville engloutie, une pièce qui accorde, dans laquelle il y a beaucoup d'ambiance. Il y a une sorte d'urgence, je dirais, là-dedans, de détresse. Tu sais, c'est pas très joyeux comme air. Il y a une voix féminine en arrière, ce qui est assez particulier.
Oui, mais en fait...
Je sais pas si c'est une voix féminine, mais...
Oui, mais c'est mon épouse qui chante.
OK. Mais elle a été retravaillée, sa voix, là.
Un petit peu, oui.
Un petit peu, oui.
Oui. Ben, je sais pas, quand je voyais... l'image mentale que j'avais quand je l'ai composée, puis je veux pas l'imposer, mais c'était celle d'une petite fille qui pleure sur une ville détruite un peu, je sais pas, quelque chose comme ça, un peu une vision un peu dystopienne. Puis la pièce a été faite à partir d'extraits d'improvisation avec deux synthétiseurs. Il y avait un synthétiseur polyphonique puis un monophonique, un Moog, qui fait un son qui évoque la voix. Mais pour rabouter ça là ensemble, il a fallu que je me casse les méninges. Ça a été des plusieurs dizaines d'heures de travail là, c'est pas plus.
Moi, tu parles de rabouter dans le sens peut-être composer ça. As-tu une formation en musique pour derrière tout ton travail?
Ben c'est ça. Quand j'étais jeune, j'ai eu des cours de violon. Je viens pas d'une famille de musiciens, mais mes parents voulaient pas me bloquer parce que eux ils l'étaient pas. Ils m'ont fait prendre des cours de violon quand j'avais peut-être 3-4 ans. Mais c'était pas vraiment mon domaine, le fait de jouer de la musique, d'autres personnes,
d'interprétation,
c'est ça. Des fois, j'ai joué aussi de la flûte, j'aimais ça faire des sons particuliers avec. J'aimais beaucoup écouter de la musique électronique aussi, qu'il y avait dans la discographie familiale. C'était un peu ce qui m'intéressait, c'était la découverte, l'inédit. J'aimais la science-fiction, j'aimais un peu être surpris. Et puis, je sais pas, j'imaginais que l'an 2000, bien, les instruments, ça serait des instruments électroniques. Et puis, je me suis dirigé vers ça un peu plus naturellement.
Ok, Gaétan?
Ben, je voyais, Charles-Émile, que sur Rêve de béton, non seulement les pièces sont nombreuses, mais les titres aussi sont très évocateurs. Puis, je cherchais un peu à comprendre quel lien tu fais. C'est quoi le processus? Est-ce que le titre vient en premier ou en second? Parce que parfois, ça peut être inspirant d'avoir un mot-clé.
Quand on parlait des vagues tout à l'heure.
Oui, parce que je l'annonce, là, on va faire jouer tantôt Anxiété lyrique. Et là, je me disais, on est vraiment dans un autre univers mental que celui de Sur les galets ou encore peut-être avec Ville engloutie, il y a peut-être quelque chose. Mais disons que c'est intéressant, en tout cas, sur le plan...
Il y a une filiation, en tout cas, avec Ville engloutie, dans l'ambiance psychologique.
Ben, c'est agréable, des fois, de prendre une image puis d'essayer de se transporter de façon sonore dans cette image en recréant une image, un son, une ambiance. Mais souvent, souvent, je compose de façon intuitive et puis après, j'essaie de me dire, bien, qu'est-ce que ça pourrait être? Puis j'essaie d'aller découvrir moi-même ce que c'est. Puis je lui donne un titre évocateur pour que ça... C'est une forme peut-être de poésie minimale, là.
Mais il y a une sorte de pulsion sonore qui vient de toi puis que tu nommes après dans le fond.
C'est très difficile le processus pour nommer pour moi parce que je suis pas du tout quelqu'un de visuel. Donc si moi je lis un roman, je peux pas visualiser les lieux, j'ai beaucoup de difficultés ou j'ai plus de facilité à conceptualiser de l'abstrait, mais pour ce qui est des images, je suis très j'ai beaucoup de retard. Donc, c'est pour moi un long travail, un long processus que d'essayer d'aller rechercher le titre, là, mais pour moi, c'est important d'ajouter une touche peut-être un peu poétique, un peu évocatrice avec les mots que j'utilise.
Parce que tu pourrais faire comme d'autres, pièce numéro 1, pièce numéro 2, mais non, tu veux absolument donner un titre à chacune de tes pièces. Puis il y en a beaucoup, tes disques sont comportent 20 pièces et plus. Là.
Mais si pour moi, la pièce... évoque vraiment numéro un, je l'appellerais numéro un. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment, pour moi, une résonance particulière à l'appeler comme ça. Donc, oui, j'aime aller chercher le bon mot.
Qu'est-ce qu'on va entendre, Gaétan?
C'est Anxiété lyrique qui est en nom.
il y a quelque chose qui force dans cette pièce-là. Il y a quelque chose qui a l'air un peu coincé. En même temps que j'écoutais ça, je voyais le titre, c'est « Rêves de béton ». Il y a vraiment comme quelque chose de lourd, de grave dans cette pièce, mais en même temps, quelque chose qui a le goût de sortir et de se faufiler entre des deux masses pesantes. C'est dit très différent de la pièce un peu plus légère qu'on a entendue avant. Mais c'est sur le même disque toujours.
Oui. La pièce de celle-là, c'est Anxiété lyrique. Ça me rappelait un peu... Il y avait un film de Fellini où il y a des cantatrices qui se mettent à chanter dans le bateau, le vogue le navire, puis ils se mettent à rivaliser l'une d'elles, les cantatrices, pour celle qui chante le mieux, celle qui chante le plus fort, les hommes embarquent. Et puis c'était... J'avais cette espèce de son de voix synthétique là, qui pousse, qu'on dirait qui est comme une sorte d'anxiété à chanter d'une façon plus technique ou plus, plus puissante. Je sais pas, je l'avais comme mélangé avec d'autres sons un peu plus abstraits. Ça donne un truc assez bizarre. Là.
Il y a quelque chose de particulier. T'es pas quelqu'un qui donne des spectacles habituellement. Ton travail, c'est essentiellement un travail que tu fais... dans ton studio, dans chez toi, tu te produis, mais tu te produis rarement ou très peu. J'ai pas vu, en tout cas, moi, des spectacles annoncés de galeries stratiques. Ton choix est davantage, donc, d'être écouté sur chacun chez soi, avec sa table tournante ou son appareil pour t'écouter. C'est un choix que tu fais. Pourquoi?
Mais c'est sûr que quand j'ai... Ce que j'aime la musique, ce qui m'a accroché dans la musique, c'est le format album. C'est peut-être de plus en plus difficile de persévérer dans cette voie-là à notre époque. Là. Mais j'aime aller chercher les gens chez eux, dans leur confort. Il m'est arrivé de faire des spectacles. J'en avais fait un en 2005 au Mutec. C'était bien. Récemment, j'avais un ami qui m'avait invité à Yangon pour faire une performance également d'improvisation. J'ai beaucoup aimé. J'avais jamais fait. Puis avec d'autres musiciens, on a improvisé. Puis ça donnait quelque chose d'intéressant. Ça, je ressentirais moins de pression à improviser avec un groupe. Mais me présenter moi seul, à présenter ces pièces-là, que je sais qu'il y a beaucoup de couches de mélodies, d'arrangements différents... Ça m'intimide un peu plus, je te dirais. Et puis, pour vraiment bien rendre, il me semble que ça prendrait d'autres instrumentistes, des collaborateurs. Donc, je suis peut-être pas rendu là encore.
Oui, puis en même temps, c'est ce qu'on prend, parce qu'on envoie souvent des shows d'électronique ou quoi que ce soit, où l'artiste est prêt et se présente avec son ordinateur et ça fait un spectacle qui manque...
statique.
Qui manque de près. Ça ferait galerie statique.
Oui.
mais c'est vrai que il faut qu'il y ait d'autres personnes autour pour que ça puisse...
L'interaction, oui, mais ça rend les choses plus intéressantes aussi. Oui.
Parce que dans le fond, effectivement, ton travail, il mérite d'être écouté, d'être, tu sais, comme assis avec ses écouteurs, et je dirais pas concentré, mais de se laisser porter par ce qui se passe, pour sentir la pièce qu'on vient d'entendre. On est passé par j'étais rendu à 5 tout à l'heure, là. Cinq phases, cinq types d'émotions, là. On savait pas trop où est-ce que ça s'en allait. Parce qu'on passait comme d'une émotion à l'autre, de grave à quelque chose de plus léger, voire même un peu drôle, une espèce de bruit qui est arrivé à un moment donné. Donc ça, en spectacle, je suis pas certain que ça aurait le même effet, parce qu'on n'aurait pas la même attention à l'écoute.
Pour une écoute superficielle, ça peut passer, mais effectivement, j'aime être très, très précis au niveau des cheminements d'idées, des volumes... de des jeux de phase aussi. On en perdrait beaucoup. Moi, je passe énormément de temps à peaufiner, à ajuster. Je passe des semaines, des fois, d'un petit détail que des fois je me dis, il y a probablement juste moi qui le remarque. Mais
il y a un côté perfectionniste en
fait.
Oui, oui.
Puis on est un peu surpris, mais au fond, il y a beaucoup d'artistes de la culture pop qui travaillent énormément en studio et qu'on voit très rarement sur scène. Mm-hmm. L'exemple est peut-être un peu boiteux, mais je me souviens que le Montréalais Gino Vanelli, mm-hmm. C'est un bonhomme qui a fait beaucoup de musique en studio. Il a fait des tubes incroyables, mais il se prêtait très, très rarement au jeu de la scène parce qu'il trouvait que il n'arrivait pas à obtenir le rendu studio qu'il satisfaisait en live. Là, je pense que maintenant, ouais. C'est ça. Je pense que maintenant, il a un peu changé son fusil d'épaule, mais c'est une approche qui est intéressante aussi,
oui.
Parce qu'elle elle est nourrie par une réflexion qui est différente.
Steely Dan aussi, je crois. Ouais. Il faisait pas beaucoup de...
Ouais, Steely Dan, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Puis c'est une musique encore là d'une grande complexité.
Oui. Ben, oui, puis c'est justement quand la musique est complexe, quand la musique est multicouche, comme ce qu'on entend avec Galerie Stratique. Ça mérite d'être écouté seul avec son casque d'écoute et pas gêné par quelqu'un d'autre autour de soi. Non?
Ouais, et puis dans cette veine-là, on pourrait passer tranquillement vers la pause. Mm-hmm. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter Combustion lente pour finir cette première demi.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Alors, nous sommes en pleine deuxième demi-heure de l'accroche-oreille, toujours avec Charles-Émile Beaulac. Ce que vous venez d'entendre, Beaulac, pardon,
oui.
Parce qu'on était justement en train de parler des origines de sa famille, qui étaient des Français qui sont venus ici, mais en petit, qui ont pas beaucoup essaimé, si je peux dire.
Exact.
Contrairement au Beaulac que je connais. Alors donc, nous sommes en deuxième demi-heure avec Charles-Émile. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est une pièce qui s'intitule « Aérien ».
Oui.
Qui vient d'où? Tu disais que tu avais de la difficulté à... Elle durait 6 minutes. Que c'était rare que tu créais des pièces de cette ampleur-là.
C'est ça. Sur mon dernier album, « Rêve de béton », j'ai mis les pièces plus actuelles que j'ai mises. Mais il reste que... Pour être honnête, mon style a quand même beaucoup dérivé avec les années. Il est devenu un petit peu plus aride là, pour certaines personnes. Puis j'ai bon pour ceux qui me suivent depuis mes débuts d'inclure des pièces qui n'avaient jamais sorti de mon ancienne période, dont celle qu'on vient d'entendre, qui date de 2002.
Okay.
Puis
c'est pas une compilation, ça, c'est juste des secrets ou des pièces qui avaient joué mais qui étaient un petit peu modifiées.
Il y avait 2 pièces sur des compilations, plus difficiles à trouver. Puis il y avait, je crois, 7 pièces qui avaient jamais sorti, puis 1/8e qui avait jamais sorti mais que j'ai réarrangé. Donc ça monte un peu le cheminement, ça peut faire une petite mise en contraste. Puis comme on avait mentionné, c'est que effectivement, on dirait que plus les années passent, moins je suis capable de faire des pièces aussi dépouillées, qui développent sur des longues périodes, puis qui évoluent lentement. On dirait que je suis plus hyperactif au niveau sonore.
Ouais, ben c'est les temps modernes aussi qui nous amènent à aller rapidement aux choses.
Hypertextualité.
Et voilà. Ben, on va enchaîner avec une autre pièce d'archive encore.
Oui.
Qui s'appelle Solitude composée.
Oui, OK. Ça, c'est une pièce que j'ai ajouté du vibraphone. J'ai recomposé un petit peu à partir d'une boucle. Oui.
Donc, on l'écoute.
Thank you.
Des pièces qui prennent le temps de se développer, hein?
Mm-hmm. Oui.
Bien, on va en envoyer une autre qui s'appelle Neige. Quelques mots là-dessus, sur cette pièce-là, Neige?
Neige, oui, c'est ça. C'est celle que je crois que j'avais fait pour une compilation sur le label Chablan Records de Pascal Asselin.
De Pascal,
oui. Oui. Si je me trompe pas, là, je ne veux pas me tromper, mais tout évoque le blanc, la neige, un peu la neige qu'ils font. C'est peut-être pas, on n'a peut-être pas envie d'écouter de la musique comme ça ce temps-ci de l'année.
Mais c'est plus qu'on va en avoir ce soir, dans, en tout cas du moins dans les montagnes.
Hein. Mais il y a quelque chose de très esthétique dans la neige qui nous inspire tous les musiciens, surtout de la musique électronique. J'y fais pas exception.
On est passé d'une manière de tempête de neige dans laquelle il y avait beaucoup de vent à des petits flocons qu'on voit descendre tranquillement comme des étoiles qui, le soir, qui viennent se poser, mais c'est comme une l'après-tempête. Guetta, tu voulais parler d'une pièce?
Oui, en fin de compte, j'étais curieux, Charles-Émile, parce que tout à l'heure, on parlait de spectacle, d'une démarche là, qui est essentiellement tournée, en tout cas grandement tournée vers le studio, donc pas beaucoup de spectacles, mais il y a tout de même de la diffusion de ce travail-là. Je pense que le web est un médium important. Et, où c'est qu'on retrouve ta musique sur le web? Et puis, qu'est-ce qui fonctionne? Parce que, bon, on va faire jouer Horizon lointain. Tu disais que c'était une pièce qui est assez populaire. Donc, comment tu lis ça? C'est quoi ta lecture de cet univers?
C'est un peu controversé, tout ça, ces questions-là. Mais je dirais que ce qui m'a apporté le plus grand auditoire, ça a été des radios en ligne, entre autres Pandora, où le référencement se fait en fonction des styles. J'avais mon deuxième album, il a souvent été comparé ou dans la lignée de groupes comme Boards of Canada. Mm-hmm. Donc, ça m'a amené un peu de la visibilité.
Du trafic
avec ça. J'essaie de me distancier un peu là de certaines influences dans mes deux derniers albums là, où j'ai fait carrément autre chose, mais il y avait certaines pièces là, entre autres Horizon lointain, Train sous la pluie, qui avaient quand même bien roulé dans ces radios là puis sur YouTube aussi. Des gens connaissaient une ou deux pièces en particulier qui jouaient sur les radios sans forcément toujours connaître le reste, puis certains venaient me contacter parce qu'ils voulaient mieux connaître un peu l'ensemble de l'œuvre.
Mm-hmm. On va se laisser bientôt sur une dernière pièce qui s'appelle Horizon lointain. Mais avant, parle-nous un peu de tes projets, de voir comment tu vois évoluer ton travail.
Je vais sans doute au cours des prochains mois faire un peu plus de collaboration pour me sortir un peu de ma zone de confort, essayer des nouvelles choses, m'associer peut-être à de la poésie, avec des poètes, m'associer avec d'autres musiciens. Ça peut être des arts de la scène, plusieurs collaborations un peu qui pourraient faire naître un peu, de par les contraintes, d'autres aspects, me forcer un petit peu à aller vers voir autre chose. J'aime beaucoup travailler aussi j'aimerais peut-être travailler un petit peu plus avec des instrumentistes. J'ai certains instruments que j'aime bien, la clarinette basse, la contrebasse, du piano, ça pourrait être des cordes aussi. Donc, peut-être sortir un peu, rajouter des sonorités acoustiques un petit peu aussi. Rapprocher un peu j'aime beaucoup le classique d'avant-garde. Pas peut-être en mélangeant les genres encore plus. Mm-hmm. Et puis en faisant des trucs, parfois aussi revenir des sonorités un petit peu plus primitives aussi. Comme j'avais fait un album, mon autre album avant, Forward, il était plus primitif. Je vais peut-être essayer de retenter ça, mais avec
une
nouvelle
vision.
Quand
tu parles de primitif, ça veut dire que tu utilises moins de synthétiseurs?
Des flûtes, des balafons, des instruments, percussions, comme on sent la peau qui colle sur les peaux donc c'est les instruments des percus là. Donc y aller peut-être dans cette optique là en mélangeant aussi avec une touche d'électronique aussi.
Alors ce qu'on entend, c'est Horizon lointain. Charles-Émile, merci d'être passé chez nous. C'était
très agréable, merci.
Gaëtan Gosselin, Jean-Pierre Gay et Charles-Émile Beulac, alias Galerie Stratique. merci et à la prochaine.
À vous, au plaisir.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.